Alors ce matin, j'avais envie de parler avec vous de la prophétie et des dons de l'esprit. C'est quelque chose dont on entend parler de manière sporadique, des fois certaines périodes plus qu'à d'autres. Et quand on pense à l'histoire de l'Église, la prophétie et les dons de l'esprit ont été en quelque sorte au fondement de l'Église. On peut penser à l'Église juste après le Christ, qui a été fondé par les apôtres, où il y a eu des signes miraculeux, où il y a eu des prophéties, et puis ça a été un témoignage pour tous, eh bien que l'Évangile était la parole de Dieu. Mais il n'y a pas besoin de remonter aussi loin pour voir que c'est quelque chose qui était important dans l'établissement d'Église. On peut penser à quand il y a eu des renouveaux, souvent des renouveaux charismatiques dans l'histoire de l'Église, où il y a eu des manifestations qui ont été étonnantes. Et on peut penser, même plus récemment, à l'histoire de notre Église. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une photo d'une foule rassemblée devant l'église du Pascard, qui date de, je n'ai pas relevé la date, mais de la première moitié du XXe siècle. Et en fait, il y a eu à ce moment-là un mouvement de l'esprit, et il y a un petit groupe après qui a continué, et c'est devenu l'église de réveil dont nous faisons partie aujourd'hui. Et ce matin, j'avais envie d'aborder ce sujet pour encourager la prophétie et les autres dons de l'esprit, mais particulièrement la prophétie, et aussi pour mettre en garde contre la prophétie. Nous allons lire trois textes. Le premier, c'est dans le livre des Actes. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 16 à 21. Acte 2, versets 16 à 21. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et en fait, cette prophétie est rappelée lorsque Pierre fait un discours devant les Israélites qui sont rassemblés à Jérusalem. C'est juste après la Pentecôte. Il y a le Saint-Esprit qui est descendu et les disciples de Jésus se sont mis à parler dans des langues diverses. Et là, Pierre, il dit, mais vous vous souvenez ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament? Eh bien, c'est en train de s'accomplir aujourd'hui. Il n'y aura plus juste une caste, une élite, un sacerdoce qui pourra prophétiser. Mais le Saint-Esprit sera donné à tous. Et tous pourront être en connexion directe avec le Dieu vivant. Et ça a arrivé il y a 2000 ans en arrière, une fois que Jésus est monté au ciel, qu'il a fait descendre son esprit. Et ça s'est reproduit plusieurs fois, peut-être pas de manière aussi spectaculaire, peut-être de manière différente, mais ça s'est reproduit dans l'histoire de l'Église à plusieurs moments. Dieu parle encore et il aime à le rappeler. Alors des fois, on aimerait bien trouver la bonne formule pour que ça se passe aujourd'hui et maintenant. Alors je vous dis tout de suite, je n'ai pas la bonne formule. Je crois qu'il y a une liberté de Dieu où on ne sait pas toujours pourquoi, mais tout d'un coup, Dieu choisit de déverser son esprit à un endroit, à un moment particulier. Et j'étais frappé quand je discutais avec des pasteurs un petit peu plus anciens qui ont les cheveux grisonnants, qui arrivent autour des 60, 70 ans aujourd'hui, des pasteurs de Suisse romande. Et plusieurs m'ont dit, mais on était rassemblés dans un week-end d'église tout à fait normal, un week-end de catéchumène, un week-end de jeûne, et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Et ils ne s'y attendaient pas. Et j'ai entendu ça, c'était quoi, dans les années 60, 70, vous en avez certainement entendu parler, si vous parlez avec Thierry Juvet, Jean-François Bussy et d'autres encore, ils vous raconteront cette histoire. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Moi, je l'ai aussi vécu dans des rencontres de jeunesse quand j'étais jeune, où tout d'un coup, eh bien, on savait que le Saint-Esprit était là, que Dieu était présent au milieu de nous. Puis il y a eu des prophéties, il y a eu des choses assez étonnantes qui se sont passées. Dieu parle encore aujourd'hui, c'est encore d'actualité et on a encore envie de le vivre. Et si j'en parle ce matin, ce n'est pas un hasard. Je crois qu'on est dans une période particulière de l'histoire de notre Église. Histoire de notre Église locale, mais aussi de l'histoire de l'Église plus largement. Parce que nos Églises sont frappées, comme toute notre société, par le coronavirus. Pas forcément directement. Des fois, c'est directement où il y a des églises où tout d'un coup, le virus s'est répandu. Mais on va être frappé, et on est frappé, parce qu'on ne peut plus se rassembler comme on veut. Et que pour beaucoup, ça va être un défi de rester ferme dans la foi. Et je me dis, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une action de la part de Dieu qui vienne nous établir, qui vienne dire, mais oui, l'Évangile, c'est un message qui vient de Dieu. L'Église, ce n'est pas juste une histoire d'être humain. C'est un projet qui est sur le cœur de Dieu. Et nous avons besoin, encore aujourd'hui, que son esprit soit déversé au milieu de nous. Et je me dis, eh bien, peut-être qu'un premier pas pour aller dans cette direction-là, c'est d'en parler et de se dire, mais Seigneur, nous voulons t'accueillir. Et après, quand il le fera, comment il le fera, ça, moi, je n'ai pas toutes les réponses. On peut voir aussi de manière indirecte que c'était quelque chose qui était présent dans l'Église. Des fois, on appelle ça l'Église primitive ou l'Église apostolique. Il y a un texte en 1 Corinthiens, chapitre 14. C'est un texte qui est bien connu. Je crois qu'à chaque fois qu'on parle de prophétie dans l'Église, c'est un texte qu'on cite. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 14, on pourrait lire tout le chapitre, mais on va se contenter des versets 26 à 36. On peut facilement imaginer que si Paul parle de la prophétie dans cet épître, c'est parce que c'était quelque chose qui était couramment vécu dans l'Église. Et vous savez, quand il y a un mouvement de l'Esprit, eh ben, souvent il y a des prophéties qui viennent assez régulièrement. Et là, Paul en parle parce qu'on imagine, quand on lit l'épître, que ça devait partir dans tous les sens. Il y a tout le monde qui parlait, soi-disant sous l'onction de Dieu, pour dire tout et n'importe quoi. Puis Paul prend la parole, ou plutôt prend la plume, et donne quelques recommandations pour que ça se passe bien dans l'Église, pour que ce soit à l'honneur de Dieu. Que faire donc, frères et sœurs ? 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 26 à 36. Que faire donc, frères et sœurs ? Lorsque vous vous réunissez, chacun peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une autre interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Et on voit là déjà dans le début de ce passage, il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'on n'est plus dans une religion où il y a quelques personnes qui sont connectées avec Dieu et qui doivent transmettre les messages de la part de Dieu. On est dans une religion où chacun, par l'œuvre de Christ, peut être en connexion directe avec Dieu et apporter de cette manière quelque chose à ses frères et sœurs. Je ne vais pas parler un peu des rôles hein, de ce matin, des rôles, des fonctions, de l'importance des pasteurs, des enseignants et des autres, des responsables d'église. C'est aussi important. Et ce que je dis là, on ne peut pas parler de tout, mais ça ne va pas à l'encontre, bien sûr. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue ? Que deux ou trois, au plus, parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenable pour une femme de parler dans l'église. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Alors on voit que la question de l'ordre est importante. Paul dit, mais on ne va pas tous parler en même temps. Il faut parler l'un après l'autre. Mais si quelqu'un parle, il ne doit pas monopoliser la parole. Et quand il a dit, mais si quelqu'un d'autre a une révélation que le premier stèse, ce n'est pas qu'il faut s'arrêter au milieu du discours pour laisser la place à l'autre et puis avoir un flot de discours interrompus les uns après les autres. Non, c'est de dire, mais s'il y a quelqu'un qui parle, dans notre cas par exemple le pasteur, mais que quelqu'un d'entre vous a une révélation, il faut à un moment donné que moi je me taise pour que quelqu'un d'autre puisse prendre la parole. C'est ce qui est arrivé avant, tout à l'heure, quand Marguerite a pris la parole. Ben voilà, elle a pris la parole, elle avait quelque chose à partager de la part de Dieu. Il est question aussi du parler en langue. Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent quand on veut aborder les dons de l'esprit et la prophétie. Que fait-on du parler en langue? Et il y a là des instructions assez claires. On peut parler en langue, il n'y a pas de problème quand on se réunit. On peut parler en langue, mais si on parle en langue de manière publique, il faut que ce soit interprété. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous ne parlons pas de manière publique. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'Église, si on y va un petit peu concrètement au milieu de nous? Ben, si quelqu'un parle en langue à sa place, prie en langue, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez que toute l'Église vous entende, il faut que ce soit interprété derrière. Il faut qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui ait le don d'interprétation. Et le but quand on parle en langue, c'est de, si ce n'est pas pour édifier l'Église, pour interpréter, c'est pour être en connexion directe avec Dieu, c'est pour bénir Dieu et puis être édifié soi-même. Et là, il n'y a pas besoin que toute l'assemblée entende quelque chose qu'ils ne comprendront pas. Puis là, je fais peut-être juste une petite parenthèse. Vous savez, des fois, vous êtes certainement retrouvé dans une église où quelqu'un va commencer à prier très très fort en langue à sa place, sans interprétation derrière. Puis des fois, je me dis, mais il y a cette recommandation qu'on est là. Quand on prie seul avec Dieu, ce n'est pas pour montrer à tout le monde qu'on est en train de... qu'on est un peu supérieur parce qu'on a reçu le don de parler en langue et pas les autres, ou bien qu'on est plus spirituel parce qu'on prie en langue. Non, on a envie de construire une relation profonde et intime avec Dieu. Et à un moment donné, des fois, vous savez, quand on parle à Dieu, ben, nos mots ne suffisent plus. Puis là, de pouvoir parler en langue, c'est tellement agréable. Et il y a un but. Il y a un but à tout ça. Il y a un but à la prophétie. Et ça, ça va déjà permettre de faire le tri dans pas mal de prophéties. Le but de la prophétie, c'est l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Quand quelqu'un prend la parole de la part de Dieu, c'est pour édifier l'autre. C'est pas pour le casser, c'est pas pour se mettre en avant. C'est pour qu'il soit édifié. Et il y a une autre chose. C'est que quand les prophètes parlent, il est dit que les autres évaluent leur message. Donc c'est-à-dire que la personne qui prend la parole, bien sûr, elle a une certaine responsabilité dans la manière dont elle le fait, mais elle a aussi, l'Église a aussi une responsabilité de la manière dont elle le reçoit. Puis finalement, c'est vrai avec tous les discours qu'on entend. Quelqu'un peut dire tout ce qu'il veut, mais nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, on doit chacun faire preuve de discernement. C'est valable aussi pour la prédication le dimanche matin. Vous n'allez pas avaler tout ce qu'on vous raconte du haut de la chair. Il faut faire preuve de discernement. Est-ce que ça colle avec la parole de Dieu ou bien pas? Est-ce que c'est un message qui vient construire votre relation avec Dieu ou bien pas? Et donc, c'est un encouragement de la part de Paul de dire, mais il est possible de prendre la parole et de s'édifier les uns et les autres quand on se réunit. Puis à la suite de ce texte qui parle de la place des femmes dans l'Église, voilà qu'une femme se taise et ne prenne pas la parole dans les Églises. Je ne vais pas entrer dans tout le débat de la place de la femme, mais je pensais que c'était important de suivre avec ce texte-là, parce qu'il me semble qu'au-delà du rôle de l'homme et de la femme, Paul veut souligner la bienséance qu'on doit avoir dans nos assemblées. C'est-à-dire, des fois, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, il y a certaines choses qui sont dites, et il vaut mieux attendre un autre moment pour en discuter. Des fois, ça ne vaut pas la peine de discuter de tout et n'importe quoi dans nos rencontres, mais d'attendre d'être à la maison et de pouvoir en discuter avec son conjoint. Et il y a d'autres fois où il y a des questions qui doivent être soulevées, notamment si quelqu'un commence à avoir un enseignement un peu douteux, où il peut valoir la peine d'en discuter et puis de dire « non, mais là, il y a quelque chose qui ne joue pas » et de prendre la parole et d'élever la voix. Et je pense que ce texte, avant de parler de la place de l'homme et de la femme, fait référence à cela. Et si les questions d'hommes et de femmes pour Paul, c'est parce qu'on est dans une société à l'époque de Paul où les femmes n'étaient pas éduquées comme elles le sont aujourd'hui. Toutes les femmes n'allaient pas à l'école et n'étaient pas élevées. Il y avait vraiment une distinction entre le statut de l'homme et de la femme et entre les deux éducations. Alors voilà, je ne vais pas plus en avant sur toutes les questions que pourrait soulever ce texte. Et il me semble qu'en lisant ce texte, il y a vraiment un encouragement à se dire, mais osons prendre la parole, osons prophétiser quand Dieu nous parle. Ce qui est étonnant dans la Bible, c'est on se dit, mais quand Dieu nous parle, à quoi ça doit ressembler ? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Comment Dieu va-t-il me parler ? Et en fait, il n'y a pas de mode d'emploi dans la Bible sur comment Dieu parle. Quand on lit la Bible, on voit que Dieu a parlé de différentes manières. Il y a eu des rêves, c'est assez clair, on est en train de dormir, il y a quelque chose qui se passe et ça vient de Dieu. Pas toujours, mais parfois ça vient de Dieu. Il y a des visions, on est éveillé et tout d'un coup, on voit quelque chose. Mais on imagine qu'il y a tout un tas d'autres manières. Il y a peut-être des intuitions. Tout d'un coup, il y a une image qui nous vient à l'esprit. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui, sans le vouloir, va prophétiser. Vous savez, quand Jésus est accusé et mis à mort, il y a le grand prêtre qui prend la parole et qui dit « Il vaut mieux qu'il y en ait un qui meure pour que le peuple soit sauvé. » Et ça, c'est une grande prophétie qui vient d'un ennemi de l'Évangile. Il y a eu des signes, il y a des miracles. Et je crois que si la Bible n'est pas claire sur le moyen que Dieu utilise pour parler, c'est que Dieu fait preuve d'imagination et qu'il sait se renouveler pour pouvoir nous parler. Mais soyons sûrs d'une chose, c'est que si on veut se placer à l'écoute de Dieu et qu'on est prêt à entendre sa voix, eh bien il saura nous parler. Parce que on n'a pas affaire à un Dieu qui est muet. On n'a pas affaire à un Dieu qui a des problèmes d'élocution, qui a une mauvaise voix. S'il veut parler, il y a la terre qui tremble. Alors s'il veut nous dire quelque chose et qu'on est à son écoute, il saura le faire. Si vous recevez quelque chose de la part de Dieu dans un culte, on a un président du culte chaque dimanche qui est là. Allez vers lui, allez lui dire ce que vous avez reçu, puis il vous dira « mais oui, prenez la parole » ou bien au contraire, peut-être que ce n'est pas le moment d'en parler. Il y a un troisième texte, que je vais lire, c'est en Colossiens chapitre 2. Et là encore, si Paul prend la parole sur ce sujet-là, là c'est une mise en garde que Paul va faire, eh bien s'il prend la parole, c'est précisément parce qu'il y avait des gens qui prophétisaient, des gens qui avaient des visions. Sinon, Paul ne se serait pas donné la peine de donner ces quelques lignes d'encouragement, d'exhortation. Colossiens 2, versets 16 à 23. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison et enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées tout humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que les choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là bien d'un commandement et d'enseignement humain. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Et là, Paul parle, vous allez dire, mais quel est le lien avec la prophétie? Paul parle de personnes qui ont des visions, qui ont une spiritualité qui est très visible. Et ces gens-là utilisent leur révélation pour imposer des interdits à ceux qui sont dans l'Église. Il leur dit, ah, mais vous savez, j'ai reçu en révélation qu'il faut observer telle fête, qu'il faut faire telle chose, qu'il ne faut pas toucher à tel aliment, qu'il faut se comporter de cette manière ou ne pas se comporter de cette manière. Réfléchissez un petit peu à ce que vous avez vécu. Je sais qu'on est dans une église où les gens ont déjà vécu ce genre de prophétie, ont déjà vécu une vie par l'esprit. Et si on réfléchit à ce qu'on a vu quand les gens ont pris la parole pour prophétiser, eh bien, on voit qu'il y a eu des personnes qui ont voulu prendre une ascendance par leur prophétie, qui ont voulu prendre une ascendance par leur vision, et qu'au lieu de conduire les autres dans la liberté, ils ont voulu conduire les autres dans un asservissement, en imposant des règles. Et bien sûr, ça ne marche pas comme ça, si on y va, ah, fais ceci, fais cela, ça ne marche pas. Mais tout ça sous couvert d'un culte plus élaboré, plus spirituel, sous un culte des anges. Ça dont Paul parle. Et ça, c'est un risque avec quand une église se met à prophétiser, c'est que tout d'un coup, on vit des choses tellement fortes avec Dieu et qui, j'imagine, sont tout à fait sincères de la part des personnes qui le partagent, mais qu'au lieu de s'en tenir à ce que la Bible nous dit pour offrir un culte qui soit raisonnable à Dieu, eh bien, on veut puiser dans nos révélations personnelles pour trouver une manière de s'approcher de Dieu qui soit plus profonde, plus authentique, plus spirituelle. Comme si la Bible, c'était bien, mais ce n'était pas tout à fait suffisant. Comme si ce que Christ avait fait, c'était un point de départ, mais qu'il y avait plus que l'œuvre de Christ. Et très vite, quand ça se produit, et ça arrive souvent, eh bien, on se retrouve sous des lois. C'est pas toujours des lois, on se dit on est orgueilleux d'observer ces lois et tout, ça peut être des choses, on se dit, mais vous avez vu, par humilité je le fais parce que je me sens serviteur, puis en fait c'est quelque chose qui vient oppresser. Mais si on pense à ce que Paul nous dit, en fait Paul il nous dit, la prophétie, ce que Christ a fait est censé nous libérer, ça doit nous conduire à davantage de liberté. Pas une liberté, bien sûr, hein, pour être débridé, on est tout à fait d'accord, il y a une certaine morale chrétienne qui est là, qui est bonne, c'est pas ça la question. Mais c'est davantage de liberté, être libre de qui on est, être affermi dans son identité en Christ. C'est cette liberté-là que la prophétie doit venir appuyer. Les prophéties ne doivent pas nous conduire à nous attacher à des règles. Ça doit conduire à nous attacher à Christ. C'est de Christ, de la tête, que vient notre vie. Ce n'est pas des prophéties. Les prophéties, elles sont utiles, elles sont bonnes, elles nous font croître, elles viennent nous établir dans notre foi. Mais ce qui nous donne la vie, c'est le Christ. Et il n'y a que Jésus qui peut venir nous nourrir, qui peut venir nous faire grandir. Les prophéties, elles sont utilisées par Dieu comme un moyen pour nous approcher de lui. Mais il ne faut pas en faire une fin. Le but de la vie chrétienne, c'est de prophétiser. Non, le but de la vie chrétienne, c'est d'être attaché à Christ. Et dans sa grâce, Dieu donne la prophétie pour que nous soyons plus attachés à Christ. Et ce serait totalement stupide de notre part de se dire « Ah, mais parce qu'il y a des problèmes avec la prophétie, parce qu'il y a des problèmes avec les dons, on va mettre tout ça de côté. » Non, si Dieu nous donne ces éléments-là, c'est pour nous établir, pour nous faire asseoir avec Christ, pour qu'on se dise « Mais Dieu est tellement merveilleux qu'on va passer notre vie avec lui. » Et il y a un réel enjeu derrière ces prophéties. Il y a un réel enjeu quand il y a des faux prophètes qui prennent la parole. C'est de nous arracher la victoire. Parce que vous savez, si on court la course jusqu'au bout, il y a une victoire qui nous sera donnée. On aura une récompense. Et cette victoire, on ne veut pas la perdre. Et moi, je suis convaincu que quand on est enraciné en Christ, on ne peut pas perdre cette victoire. Je crois que quand Christ nous saisit, il n'y a rien qui pourra nous arracher de sa main. Mais soyons attentifs, courons la course jusqu'au bout, combattons le bon combat. Soyons fermement attachés à Christ. Depuis la Pentecôte, Dieu envoie son esprit sur tout homme et toute femme qui confesse Jésus-Christ. Alors, n'hésitons pas à rechercher la prophétie, à vouloir la vivre plus pleinement. Mais toujours avec le but de s'édifier les uns les autres, toujours avec le but d'être plus proche de Christ et de mieux saisir la puissance de son œuvre, d'être plus enraciné dans son amour. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ça en Église? Comment est-ce qu'on peut avancer là-dedans? Bien, si quelqu'un reçoit quelque chose de la part de Dieu pendant un culte, n'hésitez pas à vous approcher du président du culte qui sera déjà vous orienter. Peut-être qu'il va tout de suite vous dire « Mais écoute, je crois que là, il vaut mieux attendre. » Ou là, peut-être c'est pas pour toute l'Église, c'est seulement pour une personne. Ou bien oui, prends la parole, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un reçoit quelque chose pendant la semaine, vous savez, on ne reçoit pas que des choses au culte le dimanche matin. On peut recevoir ça dans son temps de prière personnel, en allant au travail, n'importe quand. Et puis que vous voulez pouvoir le partager à l'Église. Appelez le pasteur, appelez-moi, appelez un des anciens, appelez le prochain président du culte, et puis partagez-lui ce que vous avez reçu. Peut-être que vous allez recevoir des choses pour une personne en particulier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous priez pour quelqu'un, d'un coup il y a quelque chose qui devient clair à votre esprit. Ben, je pense qu'il faut lui partager ce que vous avez reçu. Mais n'y allez qu'on vous parle. N'y allez pas comme un barbare. Déjà, avant d'aller lui parler, assurez-vous que ça vienne de Dieu et pas de vous. En cas de doute, n'hésitez pas à partager ça à un ami qui vous est proche pour dire « Mais j'ai reçu ça, est-ce que tu penses que je devrais lui partager ou pas ?» Des fois, Dieu il nous donne aussi des choses simplement pour qu'on puisse prier davantage pour cette personne. Puis si on est vraiment convaincu puis qu'on veut s'approcher de la personne en question, on va vers elle, puis on évite de lui dire « Dieu m'a dit que… » Parce que dès qu'on dit que Dieu m'a dit, en fait, la personne en face, elle est très mal prise. Si je viens vers toi et puis que je te dis « Dieu m'a dit que ceci, ceci, cela », tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre pour réagir. Parce que quand on dit « Dieu m'a dit que », la seule manière qu'on a de réagir, c'est si on s'oppose à cette personne. En fait, on ne s'oppose pas à la personne, on s'oppose directement à Dieu. Donc, on se sent toujours un peu mal à l'aise. Et puis donc, on va soit prendre ce qu'on nous dit comme argent comptant, soit on va dire mais il est loufoque, on va lui dire oui et puis on va pas trop y penser. Tandis que si on arrive en disant j'ai l'impression que, ou en priant pour toi, j'ai ressenti que, j'ai eu l'impression que Dieu me disait que, ça permet la discussion. C'est pas pour dire que Dieu parle pas ou que s'il parle c'est pas clair, mais ça permet d'ouvrir le dialogue. Et puis, ça permet aussi après un peu de tâter le terrain, puis de voir comment la personne réagit en face. Puis à la fin, quand on a terminé avec humilité, quand on a dit la chose, on peut lui dire à la fin, mais est-ce que ça te parle ce que je te dis ou tu as l'impression que c'est pas du tout juste? Puis là, ça donne aussi une indication. Si ça arrive des fois qu'on partage quelque chose à quelqu'un, ça m'est arrivé l'autre jour, il va dire non, ça ne me parle pas du tout. Bon, Bah ok, on le sait, puis alors c'est pas grave, oubliez, ça venait de moi, j'ai mal entendu Dieu. Mais si, à cause de ces choses qui peuvent arriver, on n'ose pas le faire, c'est dommage, parce que c'est aussi arrivé que je parle comme ça à quelqu'un et que ça le touche vraiment. Et j'imagine que si Dieu vous confie quelque chose à vous, c'est pour une raison particulière. Et s'il le confie à vous, et pas à moi, ou pas à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est parce que vous en avez quelque chose à en faire. Et puis, lorsque nous, on reçoit une prophétie, parce que si on commence à faire ça dans l'Église, peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra nous parler à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je crois que, premièrement, on est responsable de ce qu'on va faire, de ce qu'on nous a dit. Alors je dirais, premièrement, faisons preuve de prudence. Hein, je suis un bon vaudois, et le vaudois a trois mots d'ordre. Méfiance, méfiance et méfiance. Donc, quand on reçoit une prophétie comme ça, faisons preuve de prudence. Vérifions si elle est conforme à la Bible. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut connaître la Bible. Vérifions si vraiment ça va dans la bonne direction. Vous savez, des fois, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, Dieu m'a dit que je devais quitter mon mari ou quitter ma femme. » J'en ai plusieurs. Hein. Ça, je vous dis tout de suite, vous avez mal entendu Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous dit ça. Parce que la Bible est très claire. Hein, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Mais bon, quand on est dans le moment, hein, dans le feu de l'action, dans le feu du conflit, c'est peut-être plus aussi clair, cette parole. Je le conçois bien. Mais vérifions que la parole soit conforme à la Bible. Et ce n'est pas toujours aussi gros que ça. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à en parler à une autre personne. Vous allez vers quelqu'un de sage, puis vous lui dites, mais écoute, l'autre jour, je priais avec quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il a dit telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, ça permet aussi d'avoir un éclairage. Et puis finalement, quand vous arriverez devant Dieu, un jour, ou qui viendra vers vous, face à ce qu'on vous aura dit, vous serez les seuls responsables. Vous ne pourrez pas dire « Ah, mais j'ai été trompé, ah, mais j'ai cru que, ah, j'ai pas fait attention, ou ah, j'ai pas écouté. » On sera seul responsable face à Dieu. Donc, ça vaut la peine de réfléchir à ce qu'on nous a dit, et puis de discerner à la lumière de l'Écriture si c'est bon ou pas bon. Et là, je rappelle ce que j'ai dit au début, Dieu, il est tellement grand, tellement puissant. S'il veut nous parler et qu'on est prêt à l'entendre, je suis sûr qu'il saura se faire entendre de nous. Alors, soyons ouverts et n'ayons pas peur de passer à côté de quelque chose, parce que je crois que quand on veut marcher avec Dieu, ben Dieu nous a déjà montré qu'il avait envie de marcher avec nous. Alors voilà, ce matin, j'avais vraiment envie de pouvoir partager ce sujet-là sur la prophétie, ça touche aussi un petit peu les dons de l'esprit, puis se dire, mais on a besoin aujourd'hui que Dieu vienne nous affirmer dans notre foi, vienne nous confirmer dans notre foi, pour nous personnellement, parce qu'on est chahuté, mais aussi face à notre société, parce qu'on est aussi chahuté. Et soyons pas dupes, hein, ça va être pire par la suite. Ça va être plus compliqué pour les chrétiens dans notre société dans les années à venir. Je ne pense pas qu'on va vers un apaisement ou vers plus de liberté pour les chrétiens. Il y a beaucoup de choses qui montrent quand même que ça va devenir plus difficile. Et donc, on a besoin que ce ne soit pas juste une lettre morte, ce livre, mais que ce soit une parole vivante qui vienne nous percuter dans nos vies, qui vienne montrer que Christ est le Seigneur, non seulement à nous personnellement, pour qu'on combatte le combat jusqu'au bout, mais aussi pour que les gens aux alentours y voient qu'on a une foi vivante, qu'on a un Dieu qui est puissant, qui est tout puissant et qui veut encore parler aujourd'hui. Je vais prier. Seigneur, nous avons abordé ce matin un sujet qui nous dépasse, en tout cas qui me dépasse, moi personnellement. Comment est-ce que le Dieu Tout-Puissant, trois fois saint, parle encore aujourd'hui? Et nous aimerions simplement te dire que tu es le bienvenu parmi nous et que si nous nous rassemblons pour chanter tes louanges, eh bien nous voulons aussi nous rassembler pour te laisser toute la place au milieu de nous, toute la liberté de parler par les uns, par les autres. En Christ, tu nous as fait frères et sœurs. Nous pouvons tous t'entendre, nous pouvons tous tous si tu nous parles et nous édifier les uns les autres. Seigneur, nous te demandons que dans notre Église, il y ait cette liberté de pouvoir t'écouter, de pouvoir nous parler de ta part les uns aux autres. Seigneur, nous te prions que cela se fasse toujours avec bienséance. Nous te prions que cela se fasse toujours en vue de l'édification des autres et pas pour notre gloriole personnelle. Seigneur, nous te prions que nous soyons solidement attachés à la tête dont nous tirons notre vie. Seigneur, lorsque nous recevons une parole, donne-nous le discernement pour savoir la recevoir à sa juste valeur. Si elle vient de toi, eh bien, nous mettre en conformité dans nos vies à ta parole. Et si elle ne vient pas de toi, eh bien, simplement la mettre à la poubelle et vider la poubelle. Seigneur, donne-nous une confiance réciproque, un amour les uns pour les autres, qui donne la liberté de vivre cela ensemble. Seigneur, nous le redisons, nous avons besoin de toi. Les temps semblent devenir plus difficiles. Seigneur, si tu n'agis pas au milieu de nous, nous allons avoir de la difficulté à combattre le bon combat. Mais si tu es présent, si tu nous affermis, nous aurons encore davantage de joie à te suivre. On sera plus sûr de nous. On aura des paroles qui iront droit au but parce que tu utiliseras nos lèvres pour parler aux autres. Seigneur, c'est dans le nom précieux de ton Fils que nous prions, parce que nous savons que sur la croix, eh bien, tu as vaincu le mal, tu as pris toutes les condamnations qui étaient portées contre nous, tu les as clouées, tu les as déchirées, tu les as détruites, et maintenant nous pouvons vivre librement avec toi. Seigneur, que cette liberté soit présente au milieu de nous. Amen.